Il est 7h.
C'était une émotion très très forte de rencontrer le public. Chanter, c'est comme respirer. Alors de pas chanter et de pas être avec les musiciens, c'est terrible.
Des concerts à nouveau au Portugal qui rouvrent restaurants, bars et lieux de culture, alors que l'objectif de la mi-mai en France laisse les médecins de plus en plus sceptiques. Et lors de cette réouverture, aura-t-on assez de monde en cuisine? 100 000 employés pourraient manquer dans la restauration. Explication dans un instant. Les jurés se sont retirés pour délibérer dans le procès George Floyd. Nous serons aux États-Unis dans ce journal. Et puis, Lloris ou Griezmann, vraiment privés d'euros cet été, à suivre le vrai faux des sanctions promises par l'UEFA contre les clubs qui lancent la Super League. Et justement, l'édito sport de Virginie Fulpin dans 20 minutes.
Les joueurs de football, quels joueurs? Dans la guerre engagée entre l'UEFA et les 12 gros clubs qui créent la Super League, ils ne sont en fait que les dindons de la farce.
Juste après ce journal, l'éclairage éco, Daniel Fortin.
Et je vais vous parler de l'incroyable engouement des Européens pour la voiture électrique.
Suivi du regard international de Vincent Hervouet. Et puis enfin, nous serons avec Stéphane Bern, bien sûr, pour notre rendez-vous d'histoire. C'est juste avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le gouvernement maintient l'espoir d'une réouverture des lieux de culture chez nous à la mi-mai, mais les données sanitaires incitent assez peu à l'optimisme. 31 000 nouveaux cas hier, l'épidémie de Covid ne baisse pas, malgré deux semaines de semi-confinement. À la différence de ce qui se passe au Portugal, 500 cas quotidiens aujourd'hui, c'est 25 fois moins qu'au mois de janvier, résultat de mesures beaucoup plus strictes et qui ont permis hier soir, après 4 mois de clôture, la réouverture des salles de concert où s'est rendu Henri de la Guérie.
Entouré de 4 musiciens dans le joli petit théâtre de Loulé, Teresa Salgueiro interprète des chansons de la Révolution des œillets de 1974. Entre deux morceaux, elle a une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause du Covid. Elle remercie le personnel soignant. Privée de scène depuis janvier, elle a l'impression de revivre.
C'était une émotion très très forte de rencontrer le public.
Ça vous avait manqué ?
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, chanter, c'est comme respirer. Alors, de pas chanter et de pas être avec les musiciens, c'est terrible.
Dans la salle, un siège sur deux doit rester libre. Les spectateurs portent le masque. On a pris leur température avant d'entrer. Les artistes ont dû faire un test PCR. C'est un peu contraignant, mais la réouverture des salles était urgente, explique Paulo Silva, programmateur du théâtre.
Ça aide à faire bouger aussi l'économie. Il y a beaucoup d'artistes au Portugal qui, à 4 mois, qui ne font rien. C'est des milliers de personnes. C'est nécessaire.
Le concert affiché complet pour Vitor, présent dans la salle. La culture et le Covid ne sont pas incompatibles.
Ça peut se combiner parfaitement, comme a eu justement l'exemple ici.
Et à la fin du concert, tous les spectateurs sont repartis avec un œil rouge. Loulé, Henri de la Guérie, Europe 1.
Le Portugal, où les restaurants ont aussi le droit désormais de servir à l'intérieur. En France, on s'inquiète d'un possible manque de bras quand le service pourra reprendre.
Oui, 100 000 salariés pourraient manquer à l'appel. C'est ce qui ressort, Olivier Samin, d'une étude menée par les professionnels de la restauration.
Oui, 100 000 commis de cuisine, serveurs, barmen, chefs de rang, maîtres d'hôtel, qui pour certains n'ont pas donné signe de vie à leur patron depuis un an et qui pourraient ne pas répondre présent quand l'activité redémarrera. Le chômage partiel a été l'occasion pour certains de découvrir qu'on peut avoir ses soirées avec son conjoint et ses enfants, qu'on peut aussi avoir ses week-ends. D'autres ont mis à profit cette inactivité forcée pour entreprendre une reconversion. L'étude montre que cette crainte des patrons est particulièrement forte dans un établissement sur deux, d'où la nécessité de renforcer l'attractivité du secteur. Didier Chenet préside le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. L'un des leviers, dit-il, c'est le réaménagement des horaires des salariés.
Comment envisagent-ils leurs heures de travail? Est-ce qu'il faudra aller vers uniquement pour certains midi, pour d'autres ce sera uniquement le soir? Est-ce que l'on va continuer avec ce système de la coupure qui veut que quelqu'un travaille à midi, puis aille se reposer, puis revient travailler le soir? Oui, c'est tout un tas de réponses qu'il va falloir que nous trouvions.
Des réponses aussi sur la rémunération avec le versement de primes, la mise en œuvre d'un management moins vertical et une politique de formation plus volontariste.
Olivier Samin.
7h05 sur Europe 1. Pour l'heure, c'est sur la sécurité que veut se montrer l'exécutif après le président hier à Montpellier. Déplacement aujourd'hui du Premier ministre.
Jean Castex dans le Haut-Rhin pour annoncer les sites retenus pour la création de 15 000 places de prison. Son prédécesseur, Édouard Philippe, était lui sur Europe 1 hier soir. Entretien exceptionnel au micro de Michel Denisot, au cours duquel il est revenu notamment sur la question de la dette dont nous parlait Daniel Fortin ici même hier. Elle a explosé avec la crise sanitaire et le sujet ne peut pas ne pas être un enjeu central pour 2022. Voilà ce qu'estime Édouard Philippe.
Si on veut revenir en maîtrise de nos finances publiques,
Il faut se fixer un chemin de maîtrise de la dépense qui dure 10 à 15 ans et qui est rigoureusement respecté. Ça veut dire dépenser moins, ça veut dire faire des réformes dont on sait qu'elles ne sont pas populaires, dont on sait qu'elles ne sont pas attendues, mais qui sont indispensables. De ne pas les faire coûtera demain beaucoup plus cher. La réforme des retraites, qui passe par un travail plus long tout au long de la vie.
Le programme du prochain président.
Je ne sais pas si ce sera le programme du prochain président. Ce que je sais avec certitude, c'est que tous ceux qui expliqueront que ce sujet n'est pas au cœur des 5 prochaines années tromperont les Français.
Entretien exceptionnel d'Edouard Philippe avec Michel Denisot à retrouver en intégralité sur Europe1.fr.
Et puis alors justement, un candidat à la présidentielle ce matin, Xavier Bertrand, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1. Il répond même précisément à l'offensive d'Emmanuel Macron cette semaine sur le thème de la sécurité.
Au volet judiciaire, la piste d'un gourou complotiste derrière l'enlèvement de la jeune Mia. Un mandat d'arrêt international est lancé contre un Français installé en Malaisie, bien connu des services de renseignement. Il est cité comme une influence par les membres de l'étrange commando mis en examen ce week-end.
Et Europe 1 vous emmène ce matin en Suisse pour tenter de mieux comprendre aussi ce lieu qui a accueilli Mia et sa mère dans leur fuite. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour.
Vous êtes à Sainte-Croix dans le canton de Vaud, juste derrière la frontière française. C'est là que les gendarmes ont mis fin à la cavale de cette mère dimanche. On a beaucoup parlé d'un squat de militants d'extrême droite survivalistes. La réalité du local que vous avez pu visiter est bien différente.
Alors ce que j'ai vu, c'est une ex-usine de boîte à musique désaffectée mais occupée et aménagée avec soin. Gel hydroalcoolique à l'entrée, non-fumeur, un salon cosy, des vinyles. Une des membres du collectif d'artistes installé ici a bien voulu hier après-midi me faire visiter.
Là c'est atelier couture, donc tout est en travaux, tu vois on est là depuis un an et demi, donc bien sûr que ça prend du temps. Tout ce que tu vois là c'est de la récup.
L'occupation se fait avec l'accord du propriétaire, à condition que personne ne dorme sur place. Mia et sa mère, on ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, jure tout le monde ici. On les a accueillis sans savoir pour le kidnapping. Et si elles ont dormi ici, c'est sans nous le dire. Estelle est une autre membre du collectif, blessée d'être assimilée au profil des kidnappeurs de la fillette.
Ah, moi, j'ai reçu un email d'injure hier soir qui me traitait de kidnappeur d'enfants. Ça m'a bouleversée, il n'y a aucun doute là-dessus.
Est-ce que vous êtes complotiste, survivaliste, d'ultra-droite?
Ben franchement, non. C'est juste, je dirais presque l'extrême contraire, rien à voir avec tout ça.
Est-ce que vous avez un problème avec les services sociaux d'aide à l'enfance?
Alors moi, je suis famille d'accueil, si vous voulez le savoir. Non, c'est vrai. Alors non, pas vraiment.
Vous ne voyez, vous, aucun dénominateur commun entre la mouvance de ces kidnappeurs et vous?
Alors vraiment, aucun.
Ici, il est arrivé plusieurs fois qu'une ado fugueuse trouve refuge. On est un peu connu pour accueillir tout le monde. Sans poser de questions, analyse un membre du collectif. C'est sans doute pour ça, dit-il, que la mère de Mia a débarqué ici.
Reportage et décryptage signé Arthur Elmbaché en ligne de Sainte-Croix pour Europe 1. Toujours à l'étranger, en bref, la lutte fratricide pour la succession d'Angela Merkel enfin tranchée en Allemagne. Son parti, la CDU, choisit Armin Laschet pour briguer la chancellerie en septembre aux dépens du dirigeant bavarois Markus Söder, très populaire dans les sondages.
Alors qu'aux États-Unis, les jurés se sont retirés pour délibérer dans le procès de la mort de George Floyd.
12 hommes et femmes qui vont devoir s'accorder à l'unanimité pour dire si oui ou non le policier Derek Chauvin s'est rendu coupable de meurtre. En clôture de sa plaidoirie cette nuit, son avocat a demandé l'acquittement quand le procureur a martelé Sonia Dridi que l'agent n'avait aucune excuse.
Le procureur a terminé sa plaidoirie en projetant une nouvelle fois au juré les images de l'agonie de George Floyd. Pendant plus de 9 minutes, on voit l'ancien policier maintenir son genou sur le cou de l'Afro-Américain, allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos. Selon l'accusation, l'ex-policier est coupable des 3 chefs d'accusation, meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort de Floyd.
George Floyd a supplié jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler et l'accusé a continué cette attaque.
L'avocat de Derek Chauvin a lui tenté de convaincre le jury que George Floyd est décédé en raison de problèmes cardiaques et de consommation de drogue. Il a aussi affirmé qu'immobiliser George Floyd, qui a résisté et donné des coups de pied, était raisonnable pour la sécurité de Chauvin et de ses collègues.
Vous ne devez pas oublier que les policiers sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs dans des situations très stressantes.
Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison, mais aux États-Unis, un verdict doit être prononcé à l'unanimité. Les condamnations de policiers pour meurtre sont rares. Minneapolis se barricade en attendant l'issue du procès. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
Puis enfin, en football, quelle suite et surtout quel recours pour l'UEFA dans sa bataille contre la Super League lancée par 12 grands clubs européens.
Les menaces lancées depuis hier sont nombreuses. On va tenter de voir si elles tiennent vraiment sur le plan juridique. Avec vous, Simon Rubin, bonjour.
Bonjour.
La riposte de l'instance européenne du foot s'annonce en réalité assez compliquée.
Oui, alors l'UEFA prépare une riposte sur deux fronts. Contre les clubs, d'abord, en excluant ceux qui veulent participer à la Super League. La Ligue des Champions, ce serait donc fini pour le Real, Barcelone, Manchester ou la Juventus. Et puis les avocats de l'UEFA travaillent en ce moment même sur la possibilité d'empêcher les joueurs participant à la Super League de jouer avec leur sélection nationale. Ils pourraient par exemple être exclus de l'Euro cet été, Euro organisé par l'UEFA. Mais tout cela semble difficile à défendre devant des juges, explique l'avocat spécialiste en droit du sport, Thierry Grandturco.
Il y a déjà eu des décisions de justice qui ont permis la création de compétitions privées, qui ont permis aux athlètes d'y participer et d'échapper à toute sanction. Le dossier des 12 clubs européens est très solide.
Exclure les clubs serait donc illégal. Exclure les joueurs le serait aussi. De fait, l'UEFA n'a pas de marge de manœuvre sur le plan juridique. Seul obstacle potentiel à cette Super League, la mobilisation politique, et elle est très forte. En France, Emmanuel Macron s'oppose au projet. Même opposition en Angleterre, en Allemagne ou encore en Espagne.
Opposition des politiques, d'une grande partie des supporters, beaucoup de clubs comme le PSG sont contre également, et un grand diffuseur britannique, BT Sport, s'oppose aussi à cette Super League. Le projet a presque l'air morné quand on voit ça.
Alors c'est vrai, l'opposition est très forte parce que cette Super League, elle s'oppose frontalement à la culture sportive européenne. Historiquement, le sport moderne en Europe s'est construit autour du mérite. L'idée qu'en finale, on doit toujours retrouver les meilleurs, pas forcément les plus riches ni les plus connus. La Super League, c'est une autre vision des choses. Elle s'adresse à un public qui n'a pas cette culture, à des fans plutôt extra-européens qui voient le sport d'abord comme un spectacle. Pour qui les clubs, ce sont surtout des marques. Un public plus jeune, mondialisé, qui veut voir des stars et pas forcément des épopées de petits poussets. Quoi qu'on en pense, ce public, il existe. C'est un énorme marché. Et la Super League répond très précisément à cette demande.
Et on retient donc aussi qu'il y a peu de chances de voir Griezmann, Lloris ou Dembélé suspendus donc pour l'Euro pour cause de participation à cette Super League en club. Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ce projet de Super League européenne qui déchire le monde du football, vous venez de l'entendre. Et pour en parler ce matin, l'homme qui a régné, organisé le business foot en France pendant des décennies, l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, invité du tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. On va essayer de comprendre les enjeux, la faisabilité de cette Super League, la marge de manœuvre étroite aussi des acteurs du football européen. Tout de suite, l'éclairage éco, Daniel Fortin, avant le regard international de Vincent Hervouette.
On va parler de Petrov et Bachirov, les pieds nickelés de l'espionnage russe. Ils avaient raté Skripal en Angleterre. Ils provoquent une crise entre Prague et le Kremlin.
Bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est une véritable percée. Les voitures électriques ont connu un nouveau boom au premier trimestre de cette année. Elles représentent désormais 16% du marché européen.
Oui, au total 447 000 voitures à batterie ont été vendues au cours des trois premiers mois. Alors on distingue deux catégories, les pures électriques, elles ont progressé de 56%, et les hybrides rechargeables, celles qui ont à la fois un moteur thermique et une batterie, c'est la plus grosse partie du marché. C'est aussi la plus forte hausse, plus 158%. Vous l'avez dit, au total, la montée en puissance est très forte. Ces véhicules représentent 16% des ventes totales de voitures neuves aujourd'hui. C'était 12% au même trimestre de 2020. Il faut dire que les constructeurs mettent désormais le paquet sur ce type de produit car ça leur permet de respecter les normes de CO2 imposées par l'Europe tout en conservant leur rentabilité.
Mais qu'est-ce qui explique cet engouement des consommateurs pour une voiture qui, il faut le dire, reste quand même assez chère?
Eh bien justement, ça n'est plus si cher que ça. Quand on met bout à bout les aides accordées sous différentes formes par les pays, une voiture électrique coûte finalement à peu près la même chose qu'une voiture thermique. En France, par exemple, vous avez droit à un bonus de 7000 euros versé par l'État, plus une prime de conversion d'au moins 2500 euros si vous lâchez votre ancienne voiture polluante. Près de 10 000 euros d'aide en tout, donc ce n'est pas si mal. Il faut ajouter à cela le fait qu'on économise beaucoup sur l'usage. Une recharge de votre voiture chez vous revient entre 5 et 10 euros tous tous les 400 km. C'est très compétitif si l'on veut acheter une conduite propre.
Oui, évidemment. Oui. Mais précisément, est-ce que la voiture électrique, c'est un vrai progrès pour l'environnement ?
Alors, si on regarde la conduite seule, oui, il n'y a pas photo en termes d'émissions de CO2. Mais si on regarde la fabrication, alors là, c'est une autre histoire qui fait d'ailleurs l'objet de nombreux débats. Les matériaux utilisés, notamment pour produire les batteries, ou bien la production additionnelle d'électricité que va susciter la généralisation de ces voitures dans le monde, sont en effet loin d'être neutres dans le bilan carbone. Mais pour les constructeurs, la messe est dite. Volkswagen promet que 60% de sa production sera électrique en 2030. Pour Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën, ce sera 70% à la même date. On est vraiment en train de changer de monde.
Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Il est 7h18 sur Europe 1. Le regard international, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Crise soudaine entre Prague et Moscou. Deux espions sont recherchés par les Tchèques avec des conséquences en cascade, diplomatiques, sanitaires, économiques.
Oui, alors le service secret de l'armée russe, le GRU, a désormais une réputation aussi épouvantable que le KGB pendant la guerre froide ou le GPU du temps de Tintin chez les soviets. La faute au Novichok, l'agent énervant qui a failli tuer l'ancien colonel Skripal et sa fille, ou bien Alexei Navalny. Les Britanniques ont fait un scandale planétaire de l'affaire Skripal. Ils ont exhibé les passeports et la vidéo des deux tueurs présumés passant la douane. Ainsi sont apparus en pleine lumière Alexandre Petrov et Ruslan Bachirov. Ce sont les Dupont et Dupont venus du froid. Pour mobiliser l'opinion, il ne suffit pas que l'adversaire soit une incarnation du mal, il faut aussi qu'il soit ridicule.
Les deux suspects ont nié mollement à la télévision russe.
Oui, leurs dénégations ressemblaient à des aveux. Dans leur monde, un traître mérite une balle dans la nuque. What else ? L'enquête a démasqué deux colonels de l'unité 2955 du GRU, Alexandre Mishkin et Anatoly Chepiga, élevés quelques années auparavant à la dignité de héros de la Russie par Vladimir Poutine lui-même. Le plus épatant dans ce roman vrai, c'est qu'on sait aujourd'hui pourquoi les Dupont et Dupont russes sont des héros. Ils auraient fait sauter un dépôt de munitions en République tchèque.
Et Prague vient de lancer un mandat d'arrêt contre eux.
Après 7 ans de piétinement, la police a enfin trouvé les coupables. Les munitions étaient destinées à l'Ukraine. Le marchand d'armes a échappé à un assassinat. Encore un coup des deux Russes. Le Premier ministre Babich a réagi hier en expulsant donc tous les espions de l'ambassade russe de Prague. Il a aussi renoncé au vaccin Sputnik et exclu hier donc les Russes de l'appel d'offres pour la construction d'une centrale nucléaire, un contrat à 8 milliards d'euros. Petrov et Bachirov sont des pieds nickelés qui coûtent très cher à la Russie. En face, il est vrai qu'il y a les 18 agences de renseignement des États-Unis qui alignent 200 000 personnes et coûtent 80 milliards de dollars par an. Alors on peut trouver cette histoire trop belle pour être vraie ou bien se dire qu'on ne prête qu'aux riches. Elle ancre dans l'opinion l'idée que Poutine viole le droit et mène des guerres secrètes avec des tueurs maladroits. Et ça, juste au moment où l'OTAN et la Russie masse des troupes autour de l'Ukraine.
Merci Vincent Hervouet, il est 7h20 sur Europe 1. Et tout de suite l'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors ce soir il y a Pékin Express, mais est-ce que c'est un... on s'en fiche, ça intéresse, mais pourquoi est-ce qu'on dit un Pékin moyen? Un Pékin, il
n'y
a pas un Pékin. Rien. Est-ce que c'est un lien avec la Chine? Je ne sais pas.
Suspense, à tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk.
Europe 1.
Je vous donne rendez-vous à 8h15 pour une interview vérité.
Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle. Rendez-vous à 8h15 sur Europe 1 et en vidéo sur europe1.fr. Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'UEFA a réagi hier à la Super League fermée créée par 12 grands clubs de foot. L'instance européenne a présenté sa réforme de la Ligue des Champions. Et elle menace les clubs sécessionnistes et leurs joueurs de suspension. Pour vous, les joueurs et les entraîneurs sont les dindons de la farce.
Mais ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. Le football tangue et se déchire et eux se retrouvent au milieu de la tempête sans qu'on leur demande leur avis. J'ai réalisé à quel point ils n'étaient que des pions dans cette histoire en écoutant Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, club mythique qui fait partie des sécessionnistes.
Mon avis sur la question n'a pas changé. Nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations, rien de plus que ce qu'on peut lire dans les journaux. C'est un coup dur. Je peux comprendre que ça ne plaise pas au public, mais je ne peux pas en dire plus à ce sujet, pour être honnête. Ni les joueurs, ni moi n'avons été consultés sur la question.
Voilà, ni consulter, ni même informer simplement. Hein. You'll never walk alone, qu'ils disent. Bah si, les joueurs se retrouvent seuls, hein, comme piégés au milieu d'une situation dont ils ne maîtrisent strictement rien. Face à Liverpool, à l'échauffement hier, les joueurs de Leeds portaient un t-shirt « Si vous voulez l'Europe, il faut la mériter ». Eux, ils n'ont jamais dit le contraire, en fait. De toute façon, on ne leur a jamais demandé ce qu'ils en pensaient. Donc quoi qu'ils fassent, ils sont vus comme les méchants de l'histoire sans avoir bougé le petit doigt.
Alors en plus, l'UEFA menace les joueurs de ces clubs de les suspendre.
En gros, s'ils participent à la Super League, ce sera fini pour eux en équipe nationale. Adieu l'Euro et la Coupe du Monde. À part pour Karim Benzema, avouez que c'est pas simple de choisir entre son club et sa sélection. On peut pas demander ça à un joueur, déjà parce que c'est contestable en droit, mais la menace est là. Et les footballeurs sont comme pris en otage entre les clubs frondeurs et l'UEFA. D'ailleurs, alors que ça fait 24 heures que tout le monde donne son avis sur l'avenir du football européen, les joueurs sont à peu près les seuls à rester silencieux. Il y a quelques exceptions, mais ça vient surtout de joueurs dont les clubs ne sont pas concernés. Forcément, les autres, soit ils vont passer pour des traîtres au football s'ils soutiennent leur club, soit ils vont se retrouver dans la ligne de mire de leur employeur s'ils s'y opposent. Il y a pas de bonne solution pour eux. Une preuve de plus que les joueurs ne sont que des marchandises dans cette bataille qui les dépasse. Et un sport qui se moque autant de ses acteurs ne tourne pas vraiment rond.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport, les dindons de la farce, les joueurs. On va trouver un nouveau moyen demain à cette heure-ci d'utiliser cette expression dindon de la farce. Ça fait deux jours de suite. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourquoi c'est vrai, de façon argotique, voire même limite condescendante, quand on parle d'une personne lambda, on utilise cette expression « le Pékin moyen ».
Oui, d'ailleurs, quand il n'y a pas grand monde, on dit aussi « il n'y a pas un Pékin ». Est-ce que ça a un rapport avec la Chine ou pas du tout ?
Alors, bon, vous le savez, je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités, donc je vous réponds « oui, Mathieu » et « non ». Non, parce que Pékin, avec un Q, vient de l'occitan, qui voulait dire « petit, chétif ». D'ailleurs, notez bien, ça a donné en espagnol « pequeño » et par extension, chez nous, « pequeño ». Mais la Chine a aussi un lien, car Pékin était utilisé par les militaires. C'était une expression argotique utilisée dans la Grande Muette pour désigner toutes les personnes qui n'étaient pas engagées. Une anecdote circule à ce propos. Le maréchal d'Empire, Augereau, arrive un jour à une réunion en retard et comme excuse, déclare qu'il avait dû s'entretenir avec un Pékin. Devant les yeux ronds de l'assistance, il explique qu'un Pékin, bah, c'est tous ceux qui ne sont pas militaires. Talleyrand, qui était là, répondit « Ah, c'est drôle, nous appelons militaires tout ce qui n'est pas civil ». Le 14 juillet 1790, vous le savez, c'est la fête de la Fédération au Champ de Mars. Au sein de la cérémonie, on trouve des délégués militaires, mais aussi des délégués civils des cantons français. On imagine alors que le jeu de mots a pu naître à ce moment. Canton, Pékin, Chine, ah oui. Voilà, la boucle est bouclée. Et comme vous savez que j'aime bien terminer par une citation et que j'aime beaucoup Talleyrand, il disait à propos de Chateaubriand, mais ça peut aller à tout le monde, il se croit sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui. Ça peut aller à beaucoup de monde, non ?
Ça marche très bien, ça marche très bien. Je vais la garder, je vais me la noter, celle-là.
Elle peut servir.
Oui. Stéphane, on vous retrouve à 16h pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit le douanier Rousseau, le peintre resté célèbre pour ses tableaux de jungle luxuriante, le philosophe Emmanuel Kant et Jackie Kenny, une artiste américaine qui photographie le monde sans sortir de chez elle. Leur point commun ? Ben comme nous en ce moment, mais eux c'est toute leur vie, ils n'ont jamais voyagé.
A tout à l'heure, 16h, Historiquement Vôtre, avec Mathieu Noël. 7h28, Laurent Cabrol nous a rejoint pour la météo.
Ouais, ben moi, je vous dis qu'il n'y aura pas un Pékin qui va prévoir l'orage aujourd'hui, savoir où il tombe, parce que ça, c'est impossible. Et effectivement, les orages commencent à se poindre maintenant sur la carte de France. Et les averses que nous aurons dans le courant de la journée sur une grande partie des contrées, ces averses seront probablement à caractère orageux. Et les jours à venir seront orageux. Voilà pour la grande tendance à venir, en sachant que ça ne suffira pas à comprendre la sécheresse de surface qui est la nôtre en ce moment. Bon, premier point, les températures, 15 à 20 degrés cet après-midi, ce sera doux, il en fera 18 à Paris, 16 à Lille, 19 à Lyon. Deuxièmement, le temps. Sur la plupart des régions, c'est alternance de nuages éclaircis avec quelques averses orageuse, comme je l'indiquais, sauf sur le bassin méditerranéen et sauf sur le littoral atlantique, où là, nous aurons des nuages élevés qui voileront le ciel. Allez, c'est un voile complet qui se manifestera. Voilà pour l'essentiel. Demain, ça commencera un petit peu à s'améliorer, mais vous verrez que la fin de semaine ne sera pas mal du tout.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Il paraît difficile de concevoir qu'une enfant de 12 ans ait pu volontairement consentir à une relation avec un homme de 27 ans jusqu'à en avoir un enfant.
Et pourtant, en première instance, la justice n'a pas retenu la qualification de viol dans cette affaire. La cour d'appel d'Orléans doit se prononcer tout à l'heure. Dans ce journal, bientôt du nouveau, dans votre application Tous Anti-Covid, avec un espace test et vaccin, Alexei Navalny, soutenu par la communauté internationale. Mais qu'en est-il dans son pays, en Russie? L'opposant au pouvoir n'y est pas forcément très populaire. Et puis la Super League de football sème la discorde en Angleterre où 6 clubs sont engagés dans le projet.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy. L'homme d'affaires qu'on présente comme le grand argentier du foot français, Jean-Claude Darmon, et le projet de Super League européenne, c'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. L'édito politique de Catherine Ney.
Oui, Marlène Schiappa lance aujourd'hui les états généraux de la laïcité. Mes questions, à quoi ça sert? Pourquoi?
Et puis notez bien l'invité de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15 ce matin sur Europe 1, le candidat à la présidentielle, président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une affaire hors norme, une affaire qui, si la nouvelle loi de protection des mineurs est adoptée, aurait valu à son auteur d'être poursuivi pour viol. Les faits se sont déroulés à Tours, dans la communauté des gens du voyage. Un homme de 27 ans, déjà père de famille, a entretenu une liaison pendant plus d'un an avec une adolescente de 12 ans et lui a fait un enfant qu'il n'a pas reconnu.
Il a été condamné à 2 ans et demi de prison pour atteinte sexuelle. Aujourd'hui, c'est la cour d'appel d'Orléans qui doit se prononcer. Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
En première instance, la justice n'avait retenu ni la contrainte, ni le viol.
Oui, depuis le début, la petite fille parle d'une relation consentie. « Je l'aimais », ce sont ses mots, ceux d'une enfant de 12 ans. Elle s'est enfuie plusieurs fois avec cet homme de 27 ans, un proche de la famille qui connaissait son âge. Ses parents avaient déposé plainte au départ et puis la petite fille est devenue mère et la famille a retiré sa plainte. Marie-Paul Carré-Lebas de l'association France Victimes a été désignée administratrice ad hoc par la justice pour représenter les intérêts de la victime malgré elle.
Il paraît difficile de concevoir qu'une enfant de 12 ans ait pu volontairement consentir à une relation avec un homme de 27 ans jusqu'à en avoir un enfant. La différence d'âge aurait dû laisser penser qu'il y a eu ce qu'on appelle en droit la contrainte. Peut-être qu'une autre qualification aurait été souhaitable pour lui faire prendre conscience que cette relation ne pouvait pas être souhaitée de sa part.
Alors même que l'acte de pénétration était établi entre ce majeur de 27 ans et cette mineure de 12 ans, ce dossier n'a pas fait l'objet d'une instruction. S'il avait été poursuivi pour viol, le prévenu aurait été jugé aux assises. Il aurait encouru jusqu'à 20 ans de prison, contre 7 ans seulement, pour le délit d'atteinte sexuelle.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Depuis 5 jours, nous amorçons une décroissance de l'épidémie. Ça, ce sont les mots d'Olivier Véran chez nos confrères du Télégramme aujourd'hui. Le ministre de la Santé se base sur la baisse de nouveaux cas au quotidien. Olivier Véran se prononce également en faveur d'un déconfinement progressif territoire par territoire.
Et justement, en vue de ce déconfinement, c'est le moment de jeter un coup d'œil à Tous Anti-Covid, l'application qui va évoluer dans les prochains jours.
Et à l'approche de la réouverture, on l'espère, des bars, restaurants et musées à la mi-mai. Et donc Clément Le Saffre, Tous Anti-Covid va devenir une sorte de carnet de vaccination virtuel.
Oui, l'application va intégrer les résultats des tests PCR et antigéniques ainsi que les attestations de vaccination. Concrètement, il y aura désormais un QR code sur ces documents remis par les pharmaciens, les médecins et les laboratoires. En le scannant, on pourra donc avoir son certificat de test ou de vaccination directement dans Tous Anti-Covid. Ce certificat est valable pour les tests dès aujourd'hui et à partir du 29 avril pour les vaccins. Mais le temps que tout se mette en place dans les laboratoires, le gouvernement vise plutôt la mi-mai pour que tout le monde y ait accès. Juste à temps pour la réouverture des lieux actuellement fermés au public. Ce certificat ne sera pas obligatoire pour accéder au restaurant ou à la salle de sport, mais il sera demandé pour les voyages. De premières expérimentations vont donc avoir lieu à la fin du mois sur les vols vers la Corse et l'Outre-mer. La France est le premier pays à mettre cet outil en place et elle espère bien être suivie rapidement par les pays voisins pour faciliter la reprise des déplacements professionnels et touristiques en Europe.
Les explications de Clément Le Saffre.
Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 au pouvoir russe,
a finalement été transféré dans une unité médicale, alors que plusieurs voix s'élevaient, s'inquiétaient de son état de santé au sein de l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis.
Navalny a entamé une grève de la faim il y a 3 semaines. Si l'opposant au Kremlin apparaît comme une icône en Occident, qu'en est-il en Russie ? Et c'est ce qu'a voulu comprendre Pierre Arbulot avec notre correspondance à Moscou.
Un homme enfermé pour avoir osé parler, un martyr. Cette image d'Alexeï Navalny, les Russes ne l'ont pas. L'opposant ne rassemble officiellement que quelques centaines de milliers de soutiens, une goutte d'eau face aux 145 millions d'habitants que compte le pays de Poutine. Indifférence ou mépris, voilà ce qu'inspire le plus souvent le nom Navalny dans les rues de Moscou.
Je ne veux pas penser à lui, alors je dirais que mon opinion est neutre, voire plutôt négative.
J'ai une opinion très négative de lui. Je suis à la retraite, j'ai le temps de regarder. Je pense que toutes ces enquêtes menées sur nos dirigeants, c'est n'importe quoi. Navalny s'aime trop, il est narcissique.
La propagande gouvernementale est bien entendu passée par là. La crainte aussi de s'opposer ouvertement au régime, c'est ce que Charlotte, étudiante française en Russie, vient de découvrir en discutant autour d'elle de la manifestation prévue demain.
Ça crée un peu le malaise, je veux dire, en général, surtout quand vous êtes étranger et vous posez la question. J'aurais vraiment du mal à vous dire si beaucoup de gens vont participer à ces manifestations.
Si la figure Navalny ne fait pas l'unanimité, ses idées en revanche progressent dans l'opinion, précise un spécialiste, notamment la lutte contre l'autoritarisme et la corruption.
Pierre Herbulot avec notre correspondante à Moscou, Lena Politkovskaya.
Et puis l'europe se déchire autour de la nouvelle Super League de football au pays d'origine du foot, pays qui l'a vu naître. La condamnation est unanime en Angleterre.
Exactement, d'autant que les plus gros clubs font partie du projet. Tottenham, Chelsea, Arsenal, les deux Manchester et Liverpool. Les supporters crient au scandale et même le gouvernement s'en mêle. Anaïs Cordoba.
Cupide, traître, voici quelques-unes des injures adressées aux 6 clubs anglais du projet de Super League. En Angleterre, les fans de petits et grands clubs sont unis dans leur colère. Tom Greatrex, vice-président de l'Association nationale des supporters de football.
Les propriétaires de ces clubs décident de prendre leur ballon et d'aller jouer ailleurs. Ils n'en ont rien à faire des autres clubs et du monde du football qu'ils laissent derrière eux. Ce n'est pas sportif, ce n'est pas intègre, c'est juste motivé par l'appât du gain.
Ce projet de Super League a aussi rallié toute la classe politique contre lui. Hier, Boris Johnson a même promis des mesures pour tenter d'empêcher les clubs anglais d'y participer.
Ces clubs ne sont pas seulement de grandes marques mondiales. Il faut qu'ils se souviennent qu'ils ont vu le jour grâce à leur ville, leur village, leur communauté locale. Et ils doivent garder ce lien avec leurs fans.
Le gouvernement britannique réfléchit à adopter un modèle à l'allemande qui empêche les investisseurs privés d'être majoritaires dans les clubs et donc de prendre le contrôle au détriment des membres. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et à noter que le patron de la Première Ligue, l'équivalent de la Ligue 1, présidera aujourd'hui une réunion entre les clubs de foot anglais sans les 6 équipes membres de la Super League officialisée dimanche. Et puis en Coupe de France, les premiers quarts de finale ce soir avec 2 clubs de National 2 en lice. D'abord Rumi qui reçoit Toulouse et puis Canet en Roussillon accueille Montpellier. Canet qui avait sorti l'Olympique de Marseille en 8e de finale.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Clairement, les voix de l'actualité sont sur Europe 1 ce matin. À 1 an de la présidentielle, Emmanuel Macron s'avance sur le terrain de la sécurité. Réponse à 8h15 de Xavier Bertrand sur Europe 1, le candidat à la présidentielle au micro de Sonia Mabrouk. Dans le journal de 8h tout à l'heure, Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1 bien sûr, mais ce matin c'est l'ancien président du PSG que nous invitons, ancien dirigeant de TF1 aussi. On va parler de ce projet de Super League européenne de football, la sécession de 12 clubs parmi ceux qui ont fait l'histoire de ce sport et un témoin dans un instant. À l'heure où l'on parle d'argent roi, de foot business, Jean-Claude Darmon qui a développé le marketing sportif en France, le tête-à-tête Europe Matin à suivre. Tout de suite, une autre voix de l'actualité, Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu, ce matin on prend l'air, je vous emmène à la campagne.
Ah, ça fait du bien, tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et surtout, bonne année. Et la santé aussi, c'est important Mathieu, plein de bonnes choses. Oh là là là, le temps passe à une vitesse.
Mais qu'est-ce que vous racontez Bertrand?
Bah quoi, bah vous avez pas vu?
Ça y est, on est déjà en 2022, ça va si vite.
Emmanuel Macron prend le virage sécuritaire, laissé de côté pendant les 3/4 de son quinquennat. Il est en déplacement toujours à Montpellier.
J'en connais un qui débute une campagne. Bah c'est comme pour les appartements, les trous dans les murs, on les rebouche juste avant l'état des lieux de sortie, c'est un classique. Après avoir accordé une interview fleuve au Figaro, hier le président était en déplacement Pimpon-Girofard dans l'Hérault.
Salut à toi, électeur potentiel. Tu as vu comme je me suis bien déplacé à Montpellier? Tu aimes quand je parle sécurité? Allez, laisse-toi tenter. Autre signe que la campagne du candidat Macron a débuté, cet échange auquel on a assisté hier, au détour d'un bain de foule. Oui, un bain de foule en 2021. Discussion avec une dame de 93 ans à propos de la vaccination.
Est-ce que vous avez été vacciné?
Ça fait 1 minute 17, on a eu l'été.
Vous avez le rendez-vous?
Madame, elle a 93 ans, elle a eu le rendez-vous pour être vaccinée.
On s'en occupe. Il est trop fort, il calme même les rendez-vous pour les vaccins. C'est Doctolib. Ça, c'est typiquement une scène de campagne. Il y a tout dedans. L'acting digne d'Olivier de Carglass. Comment ça? Vous n'avez pas reçu votre dose? Oh là 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 là! Puis la patate chaude refilée direct au préfet qui l'accompagne. Madame n'a pas reçu sa dose, c'est pas normal. Et le moment promesse émotion. On s'en occupe, madame. Suivi du clin d'œil de VRP. On se croirait en entreprise quand le patron descend voir les employés une fois tous les 5 ans. Vous avez des problèmes d'imprimante, Evelyne? Non, mais c'est pas normal, ça, on s'en charge tout de suite. Vous avez entendu, Thierry, la dame a un problème d'imprimante, faut régler ça. Oui, je suis au courant, c'est pas la seule, hein. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous alerte par mail à ce sujet, mais vous. Oui, bah d'accord, allez, on s'en occupe. Bonne journée à tous. Ah, que c'est bon de retrouver l'air de la campagne. C'est que le début, hein. Ça va s'accélérer jusqu'à arriver au moment le plus savoureux, celui où il faudra parler aux jeunes. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2017, on avait eu droit au candidat avec des filtres c'est Snapchat. Vrai. Ouais, vivement 2022.
Salut les TikTokers, c'est Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je participe moi aussi au nouveau challenge. Attention, 3, 4, Corée et on tape dans les mains. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur Combini et ce soir sur ma chaîne Twitch avec Léna Situation pour un prank incroyable. Des barres. Et n'oubliez pas de voter.
Merci, la touche âme, c'est tous les matins à 7h40. C'est sur Europe 1, Bertrand Chameroy. La voix trafiquée, ça vous fait un effet hélium. Hein. Je vois que oui, ça monte au cerveau. On vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel pour Culture Média.
Europe Matin. Le 7-9.
7h42. Guerre de sécession, séisme, Big Bang, implosion. Ça, ce sont les mots de la presse en France ce matin. 12 des plus grands clubs du monde annoncent la création d'une Super League fermée, tournent le dos aux instances officielles et se mettent la planète foot à dos. Un témoin, une grande voix du ballon rond ce matin. Ça l'amuse quand on l'appelle le grand argentier du foot français. Jean-Claude Darmon a choisi Europe 1 pour réagir à ce projet. Le maillot Mbappé du petit dernier, la pub sur le bord du terrain, l'image des joueurs exploités sur les boîtes de jeux vidéo. C'est lui qui a développé le marketing sportif en France. Jean-Claude Darmon est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Jean-Claude Darmon.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir choisi Europe 1 ce matin dans cet épisode surréaliste que vit le football. Sur la forme déjà, la méthode, qu'est-ce que c'est Cavalier?
Oui, tout d'abord une chose. Moi je suis contre, évidemment. Contre des principes éthiques, philosophiques et surtout d'équité physique.
Financière.
Non. Sportive. Non. Mais je pense que ce Big Bang, qui n'est pas encore prêt en vérité, est inéluctable. Dans le temps, on y arrivera. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on y arrivera.
C'est le sens de l'histoire?
C'est l'histoire qui veut ça.
D'accord. Vous connaissez bien ces choses du football, des institutions, des discussions, de la négociation. Quelle est l'idée? C'est vraiment une histoire d'argent et rien que d'argent?
Oui, je pense que c'est d'abord l'argent qui dicte la conduite des grands clubs, mais aussi le sportif. Parce que c'est toujours plus valorisant de jouer Bayern-PSG, PSG-Real de Madrid, que de jouer contre un club maltais. C'est une évidence.
J'allais vous poser la question, parce que vous commencez en me disant je suis plutôt contre. Mais depuis le marketing du foot en France, c'est vous. Les premières commercialisations de panneaux de pub sur les terrains. Ce projet de Super League, là, la crème du foot européen, en petit comité, ça ne fait pas battre votre cœur?
Ben non, parce qu'il y a, pardon de vous le dire, il y a 25 ans, j'ai pensé. J'ai pensé pour le football français. Et non pas pour des raisons financières uniquement, c'est qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas de stade, que les collectivités locales ne voulaient pas investir et elles avaient toujours des réticences. Et pour aller contre ces réticences, je leur ai dit, si on vous garantit que votre club reste en Ligue 1, vous pouvez investir. On prend le cas du Mans, par exemple. Ils ont fait un stade magnifique de, je crois, 25 000 personnes. Le Mans joue aujourd'hui en 3e division. Et donc, ils ont un stade vide. C'est ignoble, avec des dépenses financières.
Et c'est triste à mourir quand on passe à côté.
C'est terrible. Donc, moi, j'ai pensé à ça d'abord. J'ai pensé améliorer les stades, les parkings, les prix, etc. Pas uniquement que l'argent. L'argent comptait, mais c'était pas le fond. Parce qu'on a réglé ce problème par une caisse de péréquation. C'est-à-dire que par le partage de l'argent. Et aujourd'hui, les grands clubs, ils sont victimes du partage de l'argent. Parce que l'UEFA, rappelez-vous, il y avait les clubs champions. Ils étaient champions. L'OM a été le club des champions. Aujourd'hui, ils sont le club avec 3 équipes, 4 équipes par pays. Donc le champion, c'est déjà plus le champion. Et il multiplie, non pas pour des raisons
sportives,
mais des raisons électorales et des raisons financières. Alors, et à un moment donné, les autres ne sont pas fous. Hein.
Oui, on veut notre part du gâteau, tout simplement. Aussi.
Alors, la grosse part du gâteau.
Je voudrais qu'on parle concrètement de ce qui se passe. Ce bras de fer qui s'est enclenché, c'est un match très difficile, très dur, on le lit dans la presse. Hein. Est-ce que l'UEFA, l'instance européenne du football, a les moyens aujourd'hui de bloquer ce projet? On nous dit que ça pourrait être au mois de septembre prochain.
Oui, dans l'immédiat, elle peut. Mais dans le temps, non. Pourquoi? Parce que ce sont des clubs professionnels. L'organisation professionnelle de ces clubs, ils ont le droit d'aller à la Commission européenne, de dire qu'il y a un monopole, qu'ils veulent se soustraire au monopole, organiser eux-mêmes une compétition, etc., et ils gagneraient. Donc c'est pas ça le débat. Le débat, c'est un rapport de force et d'argent. Ils vont s'arranger, c'est obligatoire. Ils sont obligés, condamnés à s'arranger.
Et une cohabitation est possible entre plusieurs compétitions différentes?
Bah, ça existe déjà. Franchement, aujourd'hui, ça existe déjà. La Champions League, le championnat national, ça existe. Donc, il n'y a pas de raison.
On ne peut pas imaginer une réconciliation avec cette Super League. C'est ça que je veux dire. C'est soit ils retirent le projet, soit il y a rupture.
Non, soit ils modifient la structure de la Super League. Parce que, entre nous, l'UEFA fait du n'importe quoi de préférence. Aujourd'hui, les phases finales de la Champions League se déroulent sur 12 villes. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il y a aujourd'hui un certain nombre de matchs qui sont programmés à n'importe quelle heure, etc. Je crois qu'il faut qu'ils se parlent, mais pas se parler comme ça. Il faut qu'ils se parlent vraiment sur leurs intentions de l'un et de l'autre.
Est-ce que l'UEFA est à la hauteur de ce challenge? Parce que clairement, l'institution européenne du football est challengée par 12 des plus grands clubs de l'histoire du football. Est-ce que l'UEFA est à la hauteur? Parce qu'on a l'impression je voyais dans l'équipe, on nous dit que c'est la peste ou le choléra, finalement. C'est difficile de défendre l'UEFA.
Mais c'est vrai. Moi, je ne défends pas l'UEFA. Parce que je considère que leur vision des compétitions, je vous dis, n'a pas été sportive, et avant tout sportive, mais a été électorale et financière. C'est difficile, défendable.
Alors je vois Alexander Seferin, le président de l'UEFA, on l'entendra dans le journal de 8h, qui nous dit « Il est difficile de croire le niveau d'immoralité de certaines personnes ». Franchement, quand on voit comment a été géré l'UEFA, les débats qu'il y a pu avoir, les polémiques, certains se disent que c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
J'en suis convaincu.
Vous-même?
Oui, évidemment, j'en suis convaincu.
Alors bien sûr, le Real Madrid, le Barça, les 2000 ans, les deux Manchester, Liverpool, la Juventus Turin. Comme ça, oui, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Mais si je vous fais écouter ça. Jean-Claude Darmon, une histoire, un palmarès, une passion, une légende, ça ne se fabrique pas?
Non, ça se construit. Et la Champions League s'est construite, c'est vrai. Mais quand on a des clubs qui ont un budget entre 650 et peut-être 900 millions d'euros, et qui sont tous endettés, parce que n'oublions pas quand même que tout vient après la crise du Covid, avec les stades vides, avec des pertes énormes que personne ne va combler. Donc que ces clubs responsables financiers tentent de trouver une solution qui, à mon avis, je l'ai déjà dit, n'est pas éthique. Ils devraient aller plus loin et penser plus, parce qu'en vérité, dans cette affaire, les seuls gagnants, ce sont encore les joueurs. Il n'y a que les joueurs qui vont gagner à ça.
Parce les joueurs vont gagner à ça.
Mais évidemment.
Attendez, on était en train de dire que ce sont les dindons de la farce. Ils n'ont pas été consultés. Ils sont menacés, pris entre le marteau et l'enclume.
Je parle des grands joueurs. Parce que ces 12 clubs qui sont demain 20, ils vont se déchirer pour prendre les meilleurs joueurs, pour avoir les meilleures recettes. Et d'un coup, les joueurs vont atteindre des salaires et des sommes incroyables, des transferts incroyables.
Alors, dans le journal de 8h, nous serons avec Charles Villeneuve, que vous connaissez, ancien président du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Darmon, pour essayer de voir pourquoi le PSG n'est pas dans cette bande des 12 sécessionnistes. Mais je vais vous poser la question autrement. Est-ce que le PSG pourra retenir un Neymar, un Mbappé, si cette Super League existe à côté, un Verratti?
À mon avis, c'est injouable. À mon avis, si demain ça existe vraiment, les enjeux financiers sont tels que le PSG, qui a des moyens, qui est capable potentiellement d'avoir des moyens énormes, aura du mal à rivaliser. Ils feront l'effort sur un joueur, sur peut-être deux joueurs, et encore.
Il y a des protestations dans le monde entier. Les supporters sont en colère partout en Europe. On les a beaucoup entendus en Angleterre, normalement. Mais au moins, avec une Super League, on a une forme de garantie du spectacle. Je lisais l'économiste du sport, Pierre Rondeau, qui dit « Regardez la prochaine Coupe du Monde au Qatar ». Tout le monde a critiqué ce choix et tout le monde la regardera quand même. Les supporters qui protestent aujourd'hui, ils vont finir par s'abonner aux diffuseurs de cette Super League.
Condamnés à le faire. S'ils veulent voir les plus grandes équipes jouer avec les plus grands joueurs du monde, parce qu'en Europe, ce sont les plus grands joueurs du monde qui jouent, hein, ils seront condamnés à s'abonner.
Alors pour conclure, Jean-Claude Darmon, vous nous dites, c'est le sens de l'histoire, 2-3 ans peut-être. Dans l'immédiat, on a une situation de blocage. L'issue pourrait être une amélioration de cette Super League. Vous imaginez quoi dans les semaines qui arrivent ?
D'abord, je pense qu'ils sont condamnés à se mettre autour de la table, de trouver des accords qui sont financiers, des accords organisationnels, matin c'est dur, et pour que la compétition ait un vrai sens. Et je pense que l'UEFA a compris son énorme faiblesse, et condamné à combler avec des promesses financières d'abord, et peut-être des promesses aussi de calendrier. Peut-être qu'il y aura des clubs protégés, plus protégés pour qu'ils aillent plus loin, etc. Mais dire aujourd'hui, je l'ai lu, l'UEFA va demander aux clubs traîtres de sortir de la compétition dès aujourd'hui, etc. Ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens.
Au nom du foot chez Fayard, ça c'est la vie, l'œuvre de Jean-Claude Darmon, votre parcours dans ces décennies de foot français, vous qui avez contribué à sa construction, à ce qu'il est aujourd'hui, je suis ravi d'avoir recueilli vos propos sur Europe 1 ce matin, votre réaction à ce phénomène de Super League, on va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Merci Jean-Claude Darmon.
Merci encore.
Merci mille fois d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin, 7h52, dans quelques toutes petites secondes, l'édito politique avec Catherine Ney.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h54 sur Europe 1. Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'édito politique de Catherine Ney cette semaine, en visitant le chantier de reconstruction de... Non, pardonnez-moi Catherine, je ne sais pas sur ma bonne feuille. Je vous ai fait peur. On partait sur un autre édito. Non, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, lance aujourd'hui les états généraux de la laïcité. Conférence de haut niveau entre intellectuels, des tables rondes jusqu'à l'été, 50 000 jeunes seront consultés.
Eh oui, c'est le grand raout, but politique affiché de la ministre, sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite et de l'autre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts, ses ennemis qu'elle invite. Partons, parlons ensemble, écoutons-nous, mais on doute qu'ils viennent. Mais voyez la laïcité, on vient d'en parler pendant des mois. Après l'assassinat abominable de Samuel Paty, ce professeur qui voulait expliquer à ses élèves ce qu'est justement la laïcité à la française, la liberté de croire ou de ne pas croire, et même de moquer des religions. Mais la laïcité n'est pas raciste ni islamophobe. C'est un sujet très lourd à manier avec des pincettes, mais surtout qui ne correspond pas aux soucis. Aujourd'hui, des Français qui n'ont qu'une idée en tête, d'abord vivre, sortir du Covid et aller boire un verre avec des amis.
Le gouvernement s'y est attelé avec la loi sur le séparatisme.
Mais voilà, qui conforte le respect des principes de la République. Il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Le Sénat a beaucoup durci la loi, comme par exemple interdire le port du voile aux accompagnatrices des élèves. Il va falloir trouver un compromis entre les deux chambres pour que la loi soit votée. Sinon, le débat reprendra à nouveau pour un tour. Alors, mais quand la loi sera votée, elle s'appliquera. On en mesurera les retombées et peut-être qu'alors seulement les états généraux se justifieraient, mais pas aujourd'hui.
Mais la ministre a le feu vert de l'exécutif ?
Ben, en tout cas, Jean Castex était très circonspect. Mais la ministre y a mis une telle énergie, un tel culot, initiative superfétatoire et autocentrée à railler un proche du président. Mais lequel l'a laissé faire ? Parce que c'est aussi pour elle un moyen d'exister. Parce que dans la loi séparatiste, justement, elle est peu intervenue. Il y avait juste le volet protection des femmes, important certes, avec l'interdiction des mariages forcés, la pénalisation des médecins qui délivrent des certificats de virginité. Mais le reste de la loi était de la compétence des ministres de l'Intérieur, de l'Éducation, de la Justice. C'était pas la vedette.
Oui, mais elle est très active, Marlène Schiappa.
Ah ben oui, par exemple, il y a quelques temps, elle a proposé la création des quartiers QSR, quartiers sans relou, pour éradiquer le harcèlement dans les rues, en promettant, ce qui n'engageait vraiment qu'elle, de déployer des brigades en civil, 2000 hommes sur les 10 000 policiers recrutés. À l'intérieur, on lui avait dit, écoute, calmos, non, tu n'y vas pas. Bon, ben c'est raté.
Alors, morale de l'histoire pour cette impétueuse ?
Eh bien, en politique, il faut lui dire que c'est pareil qu'en cuisine. Il faut travailler la pâte et puis il faut la laisser reposer.
Ah, il faut en croire l'expérience de Catherine Ney hein, sur ces questions-là. L'édito politique de Catherine Ney. Merci Catherine. 7h57. Restez bien sur Europe 1 dans quelques secondes. La météo Laurent Cabrol et le journal de 8h avec François Geffrier. À tout de suite. 7h59, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et nous allons vivre certainement la journée la moins agréable de la semaine, dans la mesure où nous aurons pas mal de nuages et même quelques ondées. Les ondées ne seront jamais absentes sur la plupart des régions. Alors ce sont des ondées très ponctuelles et franchement, bon, si vous en avez une derrière la tête, c'est que vous n'avez pas eu beaucoup de chance, pardonnez-moi de vous le dire, ainsi, parce qu'il n'y aura pas trop. Au Val-de-Loire, elles seront présentes sur la Normandie, la Picardie, sur l'Île-de-France, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre, la région lyonnaise. Allez, encore que Lyon, je ne pense pas qu'il y en aura. Et puis, sur des contrées comme toutes celles qui longent l'Atlantique, comme celles qui longent la Méditerranée, là, ce sont des nuages élevés, et donc un ciel voilé par, disons, par pratiquement partout. Allez, j'allais dire par endroit, non, par pratiquement partout. Les températures maximales vont s'échelonner entre 15 et 20 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, car elles seront vraiment très douces et très agréables à supporter. Et une belle journée. D'ailleurs, je vous la souhaite, cette belle journée, tiens.
Tiens, belle journée à vous aussi, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer.